Écrit par Gustave Le Nôtre, Le vrai chevalier de Maison Rouge, chapitre 5, Le Yai. Le 2 août 1793, Marie-Antoinette fut transférée du temple, où elle était prisonnière depuis un an, à la conciergerie, où elle devait rester pendant 76 jours. La fameuse prison du palais n'avait point, comme aujourd'hui, son entrée sur le quai de l'horloge. On y pénétrait en passant sous l'arcade qui, dans l'angle nord de la cour du mets, donne accès à une petite cour en contrebas. Par le premier guichet, on pénétrait dans une salle, l'avant-greffe, récemment transformée en buvette pour les avocats, où se tenait, dans un grand fauteuil à oreillettes, derrière une table, le concierge Richard, l'homme important de la maison. À gauche de cette pièce s'ouvrait le greffe, où se faisaient les inscriptions et les levées d'écrou. C'est là que, séparés des commis par une grille, les condamnés à mort attendaient, parfois pendant une nuit tout entière, l'heure d'être portés à l'échafaud. Un second guichet, puis un troisième, fermait un corridor noir qui servait d'antichambre à la prison. Il y en avait plus loin un quatrième, muni d'une forte grille encore existante, au-delà duquel on se trouvait dans le corridor central de la conciergerie, prenant jour par de larges baies sur la cour des femmes, espèce de puits de forme irrégulière, dominé de tous côtés par les colossales constructions du palais. Entre le troisième et le quatrième guichet, un corridor sombre s'enfonçait à gauche, conduisant à une pièce carrée, éclairée par la cour des femmes, par deux croisées basses, presque au niveau du sol. Cette pièce s'appelait la salle du conseil des guichetiers. Elle servait, en juillet 1793, de cachot au général de Custine. C'est celle qu'on montre aujourd'hui comme ayant été, en 1815, le théâtre de l'entrevue fameuse entre Madame de Lavalette et de son mari condamné à mort, entrevue à la suite de laquelle celui-ci s'évada de la façon que l'on sait. Donc, le 1er août, dans l'après-dîner, Madame Richard, l'épouse du concierge, qui jouait à la conciergerie le rôle de l'hôtesse dans une maison meublée, Madame Richard dit à sa bonne « Rosalie, cette nuit, nous ne nous coucherons pas. Vous dormirez sur une chaise. La reine va être transférée du temple dans cette prison. » Et tout aussitôt, on s'occupa d'approprier et de meubler la chambre du conseil. On trouva pour Custine un autre local. On alla chercher chez le tapissier Berthaud, cour de la Sainte-Chapelle, un lit de sangle, deux matelas, un traversin, un oreiller, une couverture légère et une cuvette. Madame Richard mit elle-même au lit ses draps les plus fins et son linge le plus blanc. On plaça au milieu du cachot une table, l'on rangea deux chaises de paille contre le mur que tapissait une toile grossière tendue sur des châssis, et l'on attendit l'arrivée de la reine. Vers 3 heures du matin, Rosalie dormait dans un fauteuil. Madame Richard, l'attirant par le bras, la réveilla précipitamment. « Allons, allons, disait-elle. « Prenez ce flambeau, les voici qui arrivent. » Rosalie descendit en tremblant et à travers les couloirs suivit sa maîtresse jusqu'à la chambre du conseil. La reine y était déjà. Quelques officiers et administrateurs, au nombre desquels était le limonadier Michoni, municipal chargé de l'inspection des prisons, se tenaient debout dans la chambre et se parlaient à voix basse. Plusieurs gendarmes obstruaient le corridor. Le petit carlin de la reine tournait, inquiet, autour de sa maîtresse. Le jour commençait à poindre. Il faisait une chaleur étouffante. Le visage de la prisonnière était couvert de gouttes de sueur 2 ou 3 fois avec son mouchoir. Tous les assistants se retirèrent, sauf la concierge et sa servante, qui offrit aussitôt ses services à Marie-Antoinette. « Je vous remercie, ma fille, » fit la reine simplement. « Depuis que je n'ai plus personne, je me sers moi-même. » et montant sur un tabouret, elle suspendit sa montre à un clou fixé dans la muraille, puis elle commença à se déshabiller pour se mettre au lit. On la laissa seule. Dans la matinée, Richard s'occupa d'organiser la surveillance de la détenue et plaça dans sa chambre deux gendarmes chargés de la garder à vue. Madame Richard, de son côté, lui procura comme servante à demeure une vieille femme de près de 80 ans, bien connue de la prison. Elle avait été concierge de l'amirauté dans l'enceinte même du palais et était la mère d'un des porte-clés de la conciergerie. On la nommait la mère Larivière. Marie-Antoinette témoigna, dès l'abord, à la vieille femme de la confiance et de la considération. Elle la chargea de rapiécer et de recoudre sa robe noire, besogne dont la mère Larivière s'acquitta fort proprement. Néanmoins, on la jugea trop âgée ou trop dévouée pour servir la prisonnière, et on la remplaça bientôt par une femme de 36 ans, Marie Harel, dont le mari était garçon de bureau à la mairie et peut-être aussi quelque peu employé de la police secrète. On s'est beaucoup attendri sur la façon dont la citoyenne Richard sut adoucir par ses prévenances et ses attentions la longue agonie de Marie-Antoinette. On l'a représentée comme une femme de cœur, pleine de pitié pour ses pensionnaires, allant elle-même à la halle acheter les plus beaux fruits et les meilleures volailles afin de les servir à la reine. La bonne Madame Richard, tel est le nom qu'elle conservera dans l'histoire. Je n'ai garde de m'inscrire en faux contre ce jugement. Mais, outre que ni dans ses dépositions, ni dans le récit de Rosalie, on ne trouve rien qui puisse autoriser à lui conserver cette réputation, il faut se méfier de cette sorte de légende pleurarde, née sous la Restauration et d'après laquelle l'auguste prisonnière de la conciergerie n'aurait été entourée que de gens prêts à donner leur vie pour elle. Je crois, au contraire, que tous, guichetiers, gendarmes, concierges mâles et femelles, par peur de l'échafaud, remplissaient strictement leurs devoirs, et que pas un d'eux ne se risqua à donner à la reine une preuve de pitié ou une parole de consolation. Cette remarque ne sera point sans intérêt pour la suite de ce récit. Et puis, ce qui entache, à mon avis, la mémoire de la femme Richard, c'est tout simplement ceci. Son nom de famille était Marie-Anne Barassin. Voilà qui jette un jour nouveau sur un personnage louche que les mémoires sur les prisons ont livré à l'indignation de la postérité. Il y avait en effet à la conciergerie un mouton nommé Jean-Pierre Barassin, dit Dessouille. Jardinier de son état et condamné à 14 ans de fer pour vol de linge. Il obtint de faire sa peine à la conciergerie. Pourquoi ? Était-il parent de la femme Richard ? C'est plus que probable, et c'est sans doute grâce à elle qu'il fut l'objet de cette faveur. Il la reconnaissait en espionnant les prisonniers, en les faisant parler, en rapportant ce qu'ils avaient dit de compromettant, en les incitant à la révolte, et l'on doit croire qu'il rendit en ce genre, à Fouquier-Tinville, de signaler service, puisque, ayant été transféré à Bicêtre, où était sa véritable place, le 7 Brumaire en 2, il fut, par ordre de l'administration de police, réintégré à la conciergerie 10 jours après. Il y était évidemment très utile. Ce qui établit d'ailleurs que la femme Richard avait pour Barassin quelque complaisance, fait qu'elle l'admit au service de la reine. C'est lui qui, le matin, balayait la chambre, vidait les eaux et faisait les gros ouvrages. Marie Harel, n'étant point bonne à tout faire, se réservait les fonctions plus délicates de femme de chambre. Tous deux, en somme, n'étaient autre chose que de vulgaires espions. Le citoyen Richard semble une figure plus effacée que sa femme. Il était paisible et laborieux, note Rosalie Lamorlière. L'abbé de Salomon l'a représenté comme un bon vivant, aimant la bonne chère et assez aimable compagnon. Tout fier d'avoir épousé une maîtresse femme, ancienne marchande à la toilette, il se contentait de veiller aux écrous et de garder sa porte, laissant à son épouse toute la responsabilité. Lorsqu'il se passait quelque chose d'anormal dans la prison, c'est elle qu'on interrogeait, et non pas lui. Quant aux deux gendarmes, Gilbert et Dufresne, braves gens, semble-t-il, qui ne quittaient pas le cachot de la reine, leur psychologie tient en quatre mots. C'étaient des gendarmes. Au moindre signe suspect, ils faisaient immédiatement leur rapport à leur supérieur, sans réticence, sans passion, sans méchanceté. Je crois qu'on peut considérer leur déposition comme l'expression absolue de la vérité. Tel était donc l'entourage de la reine en août 1793. Tels étaient les personnages appelés à jouer un rôle dans la romanesque aventure que nous avons à conter. La translation de Marie-Antoinette à la conciergerie n'était point un de ces faits qui passionnent la foule. Il passa donc inaperçu. Paris, d'ailleurs, ne s'intéresse aux incidents des révolutions qu'autant qu'ils forment spectacle. Et puis, la grande ville, qui n'a d'immuable que son éternelle insouciance, avait pris son parti de la terreur et ne s'émouvait plus que lorsque la chose en valait la peine. Je crois qu'à part une infime minorité de citoyens ayant un intérêt quelconque à la politique, la masse énorme des Parisiens de 1793 n'aurait pas pu dire ce qu'étaient les Girondins, les Brissolins, les Montagnards, les Hébertistes et les Jacobins. Pour le bon public, le monde se partageait en deux classes, les aristocrates et les sans-culottes, et on ne se dérangeait plus que pour mener les enfants, lorsqu'ils avaient été sages, voir passer les charrettes de Samson au jour où la fournée était belle. Mercier a dit ce mot terrible. Le rideau de l'opéra ne se levait pas moins à la même heure qu'on eût coupé 60 têtes ou qu'on n'en eût coupé que 20. Pourtant, il restait bien quelques cœurs tendres qui suivaient avec émotion la douloureuse odyssée de la reine et qui prévoyaient avec terreur le jour où elle se terminerait à l'échafaud. Sans doute il y avait cachés dans Paris d'anciens serviteurs de la cour, des amis des jours heureux qui se lamentaient en secret sur le sort de leur prince. Mais il faut reconnaître qu'ils se lamentaient platoniquement. Ceux qui s'indignèrent, ceux qui se compromirent, ceux qui risquèrent leur vie, furent, chose étrange et touchante, des ouvriers, des pauvres, des humbles. Oui, il se trouva dans la population parisienne des royalistes fidèles qui se liguèrent pour sauver la reine. Quels étaient-ils? Des nobles, des grands seigneurs, des courtisans de jadis? Point du tout. C'était un décrotteur, un pâtissier, trois perruquiers, un charcutier, des femmes de ménage, deux maçons, un fripier, une limonadière, un marchand de vin, un serrurier, un râpeur de tabac, etc. Et par surcroît d'étonnement, on voit que ces braves gens habitaient tous, à deux pas de la conciergerie, aux abords du palais de justice, comme si c'eût été le voisinage de la prisonnière qui leur avait inspiré le dévouement. Le cruel martyr qu'une bande de fastieux infligeait à la reine de France était devenu un incident de quartier. Rougeville fut l'instigateur et l'âme de ce complot. Lui seul, de tous ceux qui avaient approché Marie-Antoinette au temps de sa puissance, tenta quelque chose pour l'arracher au bourreau. Et quelle que soit l'opinion que la suite de ce livre puisse donner de lui, il restera constant qu'à force de ruse et de courage, il a réalisé l'impossible pour apporter à une pauvre femme, abandonnée de tous, un mot de consolation et une lueur d'espérance. Rougeville était, on l'a vu, sorti de prison depuis un mois et demi lorsque la reine fut amenée à la conciergerie. Il comprit que cette translation était un des préliminaires du procès et que le dénouement était proche. Le moment d'agir était donc venu. Autant qu'il est possible de lire dans cette histoire à jamais mystérieuse, son plan était habilement conçu. Il s'agissait de s'assurer le concours d'un assez grand nombre d'hommes sûrs qui, profitant du mécontentement général, devaient, à la faveur d'un jour d'émeute, s'emparer du poste de gendarmerie du palais de justice. Enlever la reine, la conduire à Livry sur la route de Metz, où une berline, escortée de cavaliers dévoués, la recevrait et l'emmènerait en Allemagne. Les hommes se trouvèrent, mais on n'ignorait pas que la reine était gardée à vue par deux gendarmes, et il était à craindre que ceux-ci empêchassent la sortie au moment précis où le poste du palais serait au pouvoir des conjurés. Forcés, à main armée, les portes de la conciergerie, il n'y fallait pas songer. Avant qu'on eût enfoncé les guichets et les grilles, avant qu'on fût parvenu au cachot de la reine, l'autorité avait le temps de se reconnaître, de faire battre le rappel et fermer les barrières. Il était urgent d'agir vite, et afin de n'éprouver aucun retard, il était nécessaire que la prisonnière fût prévenue, que les hommes qui la gardaient fussent, à l'avance, gagnés par elle et qu'ils la conduisissent eux-mêmes à ses sauveurs. Ainsi combiné, le projet avait certainement des chances de réussite. Mais comment avertir la reine ? Par quel moyen lui faire parvenir la somme nécessaire à gagner ses gardiens ? Qui serait assez adroit pour se glisser dans la terrible prison ? Assez hardi pour venir à la barbe des gendarmes, des guichetiers, des espions, dire à la prisonnière « Madame, telle nuit, à telle heure, nous tenterons de vous sauver. D'ici là, achetez vos geôliers, voici de l'argent. » Et si les gendarmes ne se laissaient pas corrompre ? Et si l'infortunée princesse manquait d'adresse ou de courage ou de confiance ? Et si la surprise que lui causerait un semblable avis lui faisait commettre quelque imprudence? Là était l'écueil. En somme, le succès dépendait en grande partie de la reine elle-même, et pour s'assurer de sa part un concours efficace, il fallait avant tout la préparer à l'événement et par conséquent trouver un moyen de lui parler. Rougeville aurait reculé devant une telle impossibilité s'il avait gardé quelque illusion sur la moralité, sur l'intégrité, sur la conscience des fonctionnaires qui régissaient la France terrorisée. À tort ou à raison, il les jugeait incapables de résister par pur amour du devoir aux arguments qu'il comptait mettre en œuvre. Il ne doutait pas qu'il fût facile de faire taire les scrupules d'un des puissants du jour, et il faut reconnaître qu'il y réussit complètement. Son choix, mûrement réfléchi, s'adressa sur le limonadier Michoni, que le suffrage de ses concitoyens avait élevé aux fonctions de membre de la municipalité et que la confiance de ses pairs avait bombardé administrateur des prisons. C'est lui qui avait été chargé d'escorter la reine du temple à la conciergerie. Il était le souverain maître de tous les geôliers de Paris. Tous les guichetiers tremblaient devant lui. En outre, il remplissait ses fonctions avec un tel zèle que chaque jour, délaissant les intérêts de son comptoir, il venait visiter en personne la reine dans son cachot. Fat, vain, aimant le plaisir, gonflé de son importance, il était tout glorieux de sa haute mission et si fier d'être en rapport quotidien avec la veuve Capet, qu'il aurait voulu être vu du monde entier, parlant à la pauvre femme le chapeau sur la tête et les mains dans les poches. Ses fonctions, qui eussent été pénibles pour tout homme de cœur, le remplissaient d'aise et flattaient son orgueil. Rougeville lui offrit de l'argent ? Je l'ignore. Toujours est-il qu'il se lia avec lui d'une façon assez rapide pour un administrateur des prisons. Michoni n'avait pas, comme on va le voir, des mœurs d'une austérité trop farouche. Un singulier personnage entre ici en scène. C'est un nommé Pierre Fontaine, âgé de 48 ans, qui, ayant gagné de l'argent dans le commerce des bois, vivait de ses rentes et ne détestait pas ce qu'on est convenu d'appeler les plaisirs faciles. Rougeville habitait, on le sait, le village de Vaugirard, en compagnie d'une jeune femme de 22 ans, Sophie du Tilleul. Comment apprit-il que Fontaine était liée aux Michonni? Par quels moyens parvint-il à mettre la citoyenne du Tilleul en relation avec Fontaine? Cela est resté mystère. Ce qui est certain, c'est qu'il conduisit si adroitement l'intrigue que vers le 15 août, il se trouvait à dîner chez Fontaine, rue de l'Oseille, au Marais, où l'avait amené Sophie. Il y avait là 10 ou 12 invités, dont 3 députés à la Convention. Vers 3 heures, Michonni vint se mêler à la société et sans s'attarder aux présentations, on se mit à causer. Le citoyen administrateur des prisons parla de ses fonctions avec son emphase ordinaire. Il était beau parleur et se croyait de l'esprit. Il raconta, en homme excédé de besogne, ses visites à la femme Capet. « Elle doit être bien triste, » dit quelqu'un. « Mais non, » répondit Michonni, « elle est sans souci. Mais ses cheveux sont devenus presque blancs. » La conversation continua de la sorte. « Que fait-elle? Que dit-elle? Qu'espère-t-elle ? » Et Michonni, ravi de son importance, se complaisait à donner des détails. Rougeville, tour à tour, frémissait de rage ou tremblait d'émotion en écoutant ce récit. Il excitait l'autre à parler, cherchant à jouer l'indifférence. « C'est égal, » fit-il, comme répondant à ses propres réflexions. « Vous avez de la chance, citoyen, et ce doit être un bien curieux spectacle pour un philosophe tel que vous, de voir la ci-devant reine rabaissée à ce point. Si le cœur vous en dit, citoyen, c'est un plaisir que je serais heureux de vous offrir. » « Dame, c'est tentant, mais je ne voudrais pas vous compromettre. »« Me compromettre ? Eh, ne suis-je pas le maître ? Vous n'avez qu'à dire un mot et je vous emmène avec moi visiter la conciergerie. »« Grand merci, citoyen. Ce n'est pas de refus. J'y songerai à l'occasion. » Et l'on parla d'autre chose. Rougeville avait cru prudent pour la première escarmouche de ne pas s'engager davantage. Mais on pense bien qu'il jugea opportun de resserrer ses relations avec Fontaine. Il l'invita à dîner chez lui, à Vaugirard, et de crainte que le marchand de bois ne s'étonnât de cette soudaine intimité, il lui présenta la chose comme une occasion de plaisir exceptionnel. Il s'était, en effet, assuré pour la circonstance, le concours de 2 convives, de mine agréable et de mœurs faciles, une lingère nommée Laurence Desguillots et une toute jeune ouvrière de 17 ans, Adélaïde Provost. Ces 2 filles étaient l'appât auquel Fontaine se laissa prendre. Il avoua plus tard qu'à ce repas gai, on avait fort peu parlé politique. Quand, le soir ou le lendemain matin, il quitta Vaugirard, il était le meilleur ami de Rougeville. Rien ne lie davantage que quelques heures de plaisir fraternellement partagées. On se revit bientôt, et rue de l'Oseille, le conspirateur retrouva Michonni. L'ami Fontaine avait vanté le talent de Rougeville à organiser des parties fines. On ne se quitta plus. Grâce à cette facilité de mœurs que la Révolution avait introduite dans toutes les classes de la société, Michonni, Fontaine et Rougeville en arrivèrent à se réunir presque tous les soirs pour finir gaiement la journée. La citoyenne du Tilleul plaisait évidemment à Fontaine. Il est bien possible aussi que Michonni lui-même ne soit pas resté indifférent à ses charmes. Rougeville avait-il confié à cette femme le but auquel il la faisait concourir? C'est peu probable. Il se servait d'elle comme d'un atout sans conséquence, et à son insu, la malheureuse jouait sa tête pour sauver celle de la reine. C'est donc au cours d'une de ces petites fêtes que la conversation revint à Marie-Antoinette. Rien ne fut plus facile que d'exciter quelque peu à boire le citoyen administrateur des prisons, et une fois lancé, de le ramener au projet dont on avait dit quelques mots lors de la première entrevue. Avec la tenace complaisance des gens qui ont bien dîné, il offrit de nouveau à montrer la conciergerie à ses compagnons de plaisir. Il pensait qu'en le voyant se pavaner insolemment devant la reine, son ami de fraîche date le prendrait en haute considération. Il insista. Rougeville se défendit, alléguant qu'il se souciait peu de cette visite, qu'il n'avait pas le temps, que la politique ne l'intéressait pas. L'autre leva toutes les objections. Rougeville feignit de céder par complaisance. Bref, il fut décidé que, le 28 août, il se rendrait à la mairie pour y retrouver Michonny et que de là, on irait ensemble à la conciergerie. Il est aisé de voir, à la simple lecture des documents de l'époque, que les plus farouches sans culottes, les plus austères terroristes, n'approchaient pas la reine sans ressentir une émotion vite réprimée. Un mouvement d'involontaire respect aussitôt dissimulé sous une insolence affectée. Une si étonnante infortune, une chute si profonde et si cruelle, mettait au cœur de tous un frisson d'instinctive commisération. Si imposante était la courageuse résignation de la prisonnière et sa hautaine impassibilité, que les plus rustres en éprouvaient une sorte de malaise et de gêne. Si tels étaient les sentiments que Marie-Antoinette inspirait à ses ennemis, on juge de ce que dut être l'angoisse de Rougeville en pénétrant sous les voûtes sombres de la prison où elle était enfermée. Ce n'était certes pas un homme ordinaire, celui qui, en pareille circonstance, réussit à jouer l'indifférence, à écouter d'un air attentif le bavardage de son loquace cicérone, à ne se trahir ni par un mot, ni par un geste, ni par le tremblement de sa voix, tandis qu'il s'enfonçait dans l'étroit couloir au fond duquel s'ouvrait la porte du cachot. Enfin, Michonny, faisant les honneurs, poussa cette porte. Du premier coup d'œil, Rougeville la vit, et si grande, si noble, si digne, si malheureuse, qu'il sentit son cœur bondir et plier ses genoux. Il ne l'avait pas vue depuis le 10 août. Elle était encore belle et presque jeune alors. Les hautes salles à plafond doré, les galeries de marbre et de glace, la foule des serviteurs fidèles, formaient alors un cadre à sa rayonnante majesté. Aujourd'hui, quel contraste! Une chambre basse, nue, sombre, sans meubles, deux gendarmes jouant aux cartes, la femme Harel assise devant la fenêtre et cousant. Tel était son palais et sa cour. Et elle, vieillie, maigrie, les joues creusées par les larmes, vêtue d'une pauvre jupe rapiécée, les cheveux tout blancs, se tenait debout, fière et dédaigneuse, clignant ses yeux myopes pour voir ceux qui entraient. Elle distingua Michonny et resta impassible. Mais tout à coup elle tressaillit, une vive rougeur monta à son front et c'est à peine si elle put retenir un cri d'étonnement. Elle avait reconnu Rougeville. Celui-ci ne pouvait détacher ses regards de ce spectre défiguré. Il se raidit pourtant, avança vers elle et profitant de ce que Michonny élevait la voix, donnant à la prisonnière des nouvelles de ses enfants, il montra d'un signe l'œillet qui ornait la boutonnière de son habit gris, détacha cette fleur et la jeta derrière le poêle. Tout cela fut fait en un instant et si adroitement que ni Michonny, ni la femme de chambre, ni les gendarmes ne s'aperçurent de rien. Rougeville, redevenu complètement maître de lui, reprit son attitude indifférente, écouta d'un air distrait les questions que l'administrateur des prisons posait pour la forme à la femme Harel. Et lorsqu'il vit que la visite était terminée, craignant que la reine n'eût pas compris ses gestes, il se pencha vers elle, lui dit quelques mots à voix basse, salua rapidement et se disposait à sortir quand la reine, prenant la parole, « Faut-il donc vous dire un éternel adieu ?» interrogea-t-elle comme s'adressant au municipal. Rougeville fit de la porte signe qu'il reviendrait. Mais Michonny prit pour un compliment à son adresse la demande de la prisonnière et affirma qu'il était disposé à lui rendre visite chaque fois que cela lui ferait plaisir. On se sépara. Tout le monde avait bien joué son rôle et Rougeville, maintenant, ne doutait plus du succès. Quoiqu'il eût hâte d'être dehors, il lui fallut bien suivre son cicérone qui, voulant lui faire les honneurs de la prison, le conduisit voir la cour des femmes sur laquelle s'éclairait le cachot de la reine. Pendant qu'ils étaient là, examinant les bâtiments noirs, où à toutes les fenêtres des visages inquiets de prisonniers apparaissaient, les regardant, Gilbert appela Michonny par la fenêtre. Il lui transmit une réclamation de la prisonnière au sujet de la nourriture qu'on lui servait. Michonny posa quelques questions, donna ses ordres et, toujours suivi de Rougeville, regagna le greffe, salua Madame Richard et sortit de la conciergerie. À peine resté seul avec ses gardiens, Marie-Antoinette avait fait quelques pas dans son cachot, se dirigeant vers le poêle dans l'intention de ramasser l'œillet. Mais Gilbert ne la quittait pas des yeux et observait tous ses mouvements. C'est alors que, voyant par la fenêtre Michonny qui montrait à son compagnon la cour des femmes, elle prit le premier prétexte qui s'était présenté à son esprit, adressa au gendarme sa réclamation, et tandis que celui-ci la transmettait à Michonny, elle se baissa vivement, ramassa la fleur. Elle crut devenir folle de joie. L'œillet contenait un billet. Vite à l'écart, derrière le paravent qui entourait son lit, elle déplia le papier et lut. « Ma protectrice, disait le billet de Rougeville, je ne vous oublierai jamais. Je chercherai toujours le moyen de pouvoir vous marquer mon zèle. Si vous avez besoin de 300 à 400 louis pour ce qui vous entoure, je vous les porterai vendredi prochain. » Rien de plus. Mais en relisant ce simple mot, la pauvre femme tremblait de crainte, de reconnaissance et d'espoir. Ainsi donc, elle n'était pas abandonnée de tous. Il restait des cœurs fidèles, des serviteurs dévoués qui s'intéressaient à son sort. Et l'idée lui vint, sans doute que ses amis inconnus étaient donc bien puissants et bien riches, puisque des grilles des prisons d'État s'ouvraient devant eux. Déjà, elle put se voir, tant l'imagination déploie rapidement ses ailes, loin de Paris, dans quelque retraite sûre, avec ses enfants et sa sœur, car certainement on s'occupait de les sauver, eux aussi. Elle eut l'énivrante impression de l'espace, de l'air pur, de la liberté. Mille pensées se heurtaient dans sa tête. Pour ceux qui vous entourent, 300 à 400 louis, elle comprenait. Son rôle à elle était de séduire, d'acheter ses gardiens. Tout de suite, dans sa hâte de réussir, sous l'action de l'émotion qui l'enfiévrait, elle voulut agir. À tout hasard, elle déchira en 100 morceaux le billet de Rougeville et sur un mauvais chiffon de papier qui traînait sur sa toilette, elle traça, à l'aide d'une épingle, n'ayant ni plume ni crayon, une courte réponse. Puis, affermissant sa voix, domptant sa fierté, adoucissant son regard, elle pria la femme Harel d'aller lui chercher de l'eau fraîche. Quand elle fut seule avec ses gardiens, « Monsieur Gilbert, » fit-elle. Le gendarme s'approcha. La reine, depuis un mois qu'elle vivait dans sa compagnie, avait pu remarquer son honnêteté, sa douceur, son maintien convenable et discret. Elle crut qu'elle n'avait qu'à parler pour s'en faire un ami. « Monsieur Gilbert, prononça-t-elle à voix basse, voyez comme je suis tremblante. Ce monsieur que vous venez de voir est un chevalier de Saint-Louis, employé aux armées, qui m'a déjà donné, en bien des circonstances, des preuves de son dévouement. » La pauvre reine essayait de sourire pour attendrir son geôlier. Elle cherchait, devant ce soldat de qui dépendait son sort, à donner à son visage, vieilli et fané par les pleurs, ce charme irrésistible d'autrefois, cet air de confiance et d'amicale douceur qui naguère avait dompté Mirabeau et désarmé Barnave. « Vous ne vous doutez pas, ajouta-t-elle simplement, comment ce monsieur a réussi à me faire passer un billet. Il m'a fait un signe que je n'ai pas saisi d'abord. Puis, s'approchant de moi, il m'a dit, sans que vous puissiez l'entendre, de ramasser le yai qu'il avait jeté derrière le poêle. Il m'a promis de revenir. J'ai trouvé la fleur, j'ai lu le billet, et voici ma réponse. Vous voyez que, lorsqu'il le faut, je puis me passer de plume pour écrire. » Gilbert restait interdit. Il regardait la prisonnière fixement, hésitant à comprendre. Elle continua, un peu inquiète. « Vous ne me trahirez pas, monsieur Gilbert. Vous ne direz rien, n'est-ce pas? Ce monsieur serait perdu. Voici mon billet. Je le lui remettrai moi-même quand il viendra vendredi. » La citoyenne Harel rentrait à ce moment, apportant l'eau. Gilbert étendit la main, prit le papier que la reine roulait entre ses doigts. Stupéfaite, elle le laissa faire. Le gendarme sortit de la chambre, suivit le couloir, traversa le greffe. Dans les cas graves, on s'adressait, nous l'avons dit, non pas au concierge, mais à Madame Richard. C'est donc à elle que Gilbert raconta ce qui venait de se passer. Il lui montra le papier piqué de coups d'épingle. Elle l'examina, chercha à y déchiffrer quelque chose, n'y parvint pas et le serra dans son portefeuille. « Que comptez-vous faire ? » lui demanda le gendarme. « En instruisez-vous le citoyen Micheny ?»« Laissez cela, » répondit-elle. « Je vous réponds qu'à l'avenir, il n'arrivera plus ici d'étrangers. » Pendant la soirée et toute la journée du lendemain, la reine, inquiète, agitée, nerveuse, ne cessait d'interroger Gilbert et de lui demander ce qu'il avait fait du billet. Elle s'illusionnait, ne sachant pas si elle devait compter cet homme au nombre de ses amis, si elle avait réussi à le gagner à sa cause. De guerre lasse, il répondit que la citoyenne Richard lui avait pris, par manière de jeu, tous les papiers qu'il avait dans sa poche et que le billet se trouvait avec eux, qu'au reste, il n'y avait rien à craindre. La prisonnière doutait encore. Peut-être Gilbert voulait-il agir prudemment et ne pas se compromettre vis-à-vis de son collègue Dufresne qui continuait à tout ignorer. Quelle nuit dut passer dans cette angoissante incertitude la malheureuse reine. Le moindre bruit dans la prison, le cri d'un condamné traîné au greffe, le choc d'un guichet brusquement fermé, l'appel d'un geôlier, tout était pour elle un sujet d'espoir, bientôt déçu. Chaque fois que sa porte s'ouvrait, elle s'attendait à voir entrer ses sauveurs. Chaque fois la déception se faisait plus cruelle, elle n'osait plus interroger. Mais sa pensée ne quittait pas Rougeville, ce libérateur inespéré, si rapidement entrevu. Que fait-il? Que devient-il? Pourquoi ne vient-il pas? Hélas, il ne devait plus revenir. Le 30 août, Micheny se présenta à la conciergerie. La femme Richard le prit à part, lui conta tout, et comment il avait favorisé à son insu l'entrée d'un chevalier de Saint-Louis chez la reine, et comment elle se trouvait, elle, en possession de la réponse qu'avait faite à ce billet Marie-Antoinette. Micheny ne s'alarma pas. Il savait bien que ni la citoyenne Richard ni aucun des geôliers sous ses ordres n'oserait le dénoncer. Il retourna en tous sens le papier compromettant, n'y put distinguer aucun caractère et finalement le mit dans sa poche. « N'en parlez point, recommanda-t-il à la concierge. Cela n'a aucune importance. Cependant, je n'amènerai plus personne. » Ainsi qu'à l'ordinaire, il fit dans la prison sa tournée d'inspection. Il considérait l'affaire comme terminée, mais il comptait sans la discipline militaire. Esclave de sa consigne, en faisant le 3 septembre son rapport hebdomadaire à son colonel, Gilbert, dans la crainte de compromettre le corps tout entier, ne voulut rien cacher des incidents qui s'étaient passés dans le cachot de la reine. Le colonel déposa ce rapport au greffe du tribunal, et tout de suite, le complot s'ébruita. Le jour même, le comité de sûreté générale en était informé et il dépêchait à la conciergerie 3 de ses membres, Cailleux, Amar et Sevestre, pour ouvrir une enquête. En voyant entrer dans son cachot 6 gendarmes qui se massèrent en bon ordre devant la porte, la pauvre reine comprit enfin. Son rêve de liberté resterait un rêve et il était à jamais terminé. Les conventionnels s'installèrent dans une pièce voisine de la chambre du conseil, se constituèrent en une sorte de tribunal, s'adjoignirent Aigeon, aide de camp de la force armée de Paris, et le citoyen Bax, secrétaire du comité de sûreté générale, fit rappeler Michonny, puis un gendarme introduit Marie-Antoinette. Si pendant quelques heures elle était redevenue la femme qu'un rayon d'espoir enivre, que l'angoisse de l'attente énerve et surexcite, elle reprit devant les commissaires de la Convention son impassibilité et son calme hautain de reine. Elle répondit à toutes les questions et ne compromit personne, prétendit ne se souvenir de rien, n'avoir rien vu, allégua qu'elle ne pouvait faire un mouvement sans être espionnée par ses gardiens, qu'il était présumable que ceux-ci remplissaient leurs devoirs et que, n'était à craindre de les compromettre, elle n'hésiterait pas un instant à tenter tous les moyens pour se réunir à sa famille. Elle avoua du reste, à un second interrogatoire, avoir reçu un billet et en avoir tracé un autre. La femme Harel, interrogée ensuite, se rappela bien avoir remarqué un jeune homme accompagnant Michonny, mais elle était certaine que cet étranger n'avait pas dit un mot à la prisonnière. Michonny mit à son tour sur la sellette, reconnut sans difficulté qu'il avait amené souvent des curieux à la conciergerie, mais que cela n'avait aucune gravité. Quant au particulier, qu'on disait être un chevalier de Saint-Louis, il l'avait connu chez Fontaine, mais il ignorait son nom. Fontaine, lui, savait que l'inconnu se nommait Rougeville, qu'il habitait chez la femme du Tilleul à Vaugirard, qu'ils avaient dîné plusieurs fois ensemble, mais il ne le connaissait pas autrement. Michonny, rappelé, certifia qu'il ne savait pas comment se nommait le suspect, bien qu'il se fût souvent assis à sa table. Au surplus, il remit au commissaire le papier sur lequel la veuve Capet avait tracé quelques mots incompréhensibles et se résuma en disant qu'il n'attachait aucune importance à toute cette affaire. Il paraissait évident que Fontaine et Michonny mentaient. De la part d'un fonctionnaire investi d'une mission aussi grave que l'était, en 1793, la surveillance des prisons, le fait d'avoir introduit dans le cachot de la reine un homme dont il ignorait jusqu'au nom et avec lequel il était cependant en relation suivie, parut à bon droit invraisemblable. Une telle légèreté frisait la complicité. Il fallait néanmoins des présomptions plus fortes pour établir l'accusation de complot. Tant qu'on ne tiendrait pas cet audacieux Rougeville, tant qu'on n'aurait pas déchiffré le billet de la reine, on ne saurait rien. Et les commissaires, en revenant sans cesse à ce chiffon de papier qu'ils avaient joint au dossier, ils se le passaient de main en main, le retournaient, l'interposaient au jour, l'examinait sous tous ses aspects, le problème restait sans solution. Il existe encore ce billet. De guerre lasse, les commissaires l'épinglèrent à l'interrogatoire de la reine et il y est resté. C'est un petit fragment de papier à papillote, haut de 11 cm et large de 4. Bien des gens depuis un siècle ont passé de longues heures à lui demander son secret. Mais pour tous, il est resté indéchiffrable. À premier examen, il semble ridicule qu'on n'ait jamais cherché à y reconnaître des caractères quelconques, tant les trous d'épingle qui le criblent sont serrés et percés sans ordre. L'on serait en droit de croire que toute cette histoire de réponses adressée à la reine par Rougeville et interceptée par Gilbert a été inventée de toutes pièces afin de compromettre l'auguste prisonnière si elle-même n'avait avoué s'être servie de ce moyen pour correspondre avec son sauveur. Mais en l'examinant de plus près, l'œil croit distinguer une sorte de tracé régulier, un arrangement de piqûres d'épingle ressemblant en effet à trois lignes irrégulières dont il est impossible cependant de lire une seule lettre. Cette énervante énigme passe cependant pour avoir trouvé son Oedipe. On a dit que M. Pilinski, après un long travail d'analyse et de reconstitution, avait réussi il y a quelque 30 ans à trouver la clé du mystère. Il était parvenu à lire ces mots. « Je ne parle à personne, je suis gardé à vue, je viendrai. » Il convient de dire que M. Pilinski était coutumier de tours de force semblables. Autographiste de son métier, il avait acquis une si extraordinaire habileté à reproduire toute espèce d'écriture et même de caractère imprimé que le gouvernement russe, à l'époque de l'insurrection de la Pologne, l'avait prié d'aller exercer autre part qu'à Varsovie son inquiétant talent. M. Pilinski s'étant fixé en France, les collectionneurs lui confiaient certains travaux délicats dont il s'acquittait avec une stupéfiante dextérité. Une page avait-elle été enlevée d'un livre rare et précieux? C'était à Pilinski qu'on s'adressait. Il faisait choix, dans son assortiment de papier ancien, d'une feuille convenable, l'adaptait à la place voulue et y copiait le texte manquant avec une telle perfection que les experts les plus clairvoyants en étaient toujours dupes. Personne n'ignore le culte que le savant M. Vatel avait voué à la mémoire de Charlotte Corday. Voulant se procurer pour sa collection une copie de l'interrogatoire de l'héroïne, il commanda à Pilinski de lui en faire un fac-similé. L'autographiste reproduisit avec une si scrupuleuse exactitude l'aspect du dossier, les taches, la teinte effacée de l'encre, que lorsqu'il eut terminé son étrange besogne, il eut la malice de serrer son œuvre dans le carton qui contenait la pièce originale. Puis il pria l'un des archivistes de vouloir bien lui rendre sa copie. Celui-ci ouvrit le carton et l'on juge de son affolement en y constatant la présence de deux dossiers absolument semblables. On mit tout en œuvre pour les distinguer. On examina le grain du papier, sa marque, ses cassures, ses piqûres, ses irrégularités. Rien ne pouvait guider le diagnostic. On fut obligé de s'en remettre à Pilinski lui-même et j'espère qu'il aura eu la bonne foi de faire loyalement la distinction. Quelque sorcier qu'il fût, il lui était matériellement impossible, néanmoins, de déchiffrer le billet de la reine. La raison en est simple, ce papier a été si souvent, et à l'époque du procès et depuis, épinglé au dossier, détaché, épinglé de nouveau, et le plus souvent sans soin et sans attention, qu'il s'est ajouté aux piqûres primitives 1000 trous d'épingles accidentelles qui ne font point partie du texte et rendent toute tentative de lecture absolument illusoire. Ce n'est pourtant pas sans émotion que l'on contemple ce misérable chiffon où la reine mit sa dernière illusion, son suprême espoir. C'était là l'unique preuve du complot. Et ce mystérieux papier devait, par la suite, coûter la tête à bien des gens. Pour le moment, on se contenta de garder Michonnier et Fontaine à la conciergerie et d'envoyer à la force Richard et sa femme. L'important était de découvrir Rougeville. On avait bien retrouvé et interné à Sainte-Pélagie la citoyenne du Tilleul, mais elle n'avait pu, su ou voulu rien dire. Elle aussi semblait ignorer quel était ce Rougeville avec lequel elle vivait depuis plus d'un an. Cet invisible personnage paraissait être un mythe. L'audace dont il avait fait preuve, la seule fois qu'il s'était révélé, l'empire inexplicable qu'il exerçait sur ses complices, le merveilleux talent d'intrigue qu'il avait déployé pour se les attirer, portait à reconnaître en lui l'agent d'une immense conspiration qu'on s'attendait chaque jour à voir éclater. Il fallait donc avoir Rougeville, à tout prix. Le 4 septembre, le comité de sûreté générale mit à ses trousses Baudret, l'un des plus habiles policiers de l'époque. On ouvrit à cet agent un crédit illimité pour les dépenses qu'il pourrait avoir à faire au cours de ses recherches. On lui donna plein pouvoir. On envoya le signalement du conspirateur à toutes les sections de Paris, à tous les départements, à toutes les municipalités. On entoura d'espions la maison de Vaugirard. On établit en permanence un gendarme chez Fontaine et un autre chez Michonny. On autorisa Baudret à faire des visites domiciliaires, à placer des agents dans tous les endroits soupçonnés, à arrêter indistinctement tous ci-devant qui auraient recelé le ci-devant marquis ou l'auraient soustrait aux poursuites. Tout cela en pure perte. Rougeville avait disparu sans qu'on pût savoir par quelle trappe. On avait constaté seulement que le mardi 3 septembre, il avait quitté sa maison de Vaugirard avec la citoyenne du Tilleul. Il emportait deux chemises et quelques paires de bas. Ils étaient allés tous deux dîner chez Fontaine, puis s'étaient séparés. Depuis lors, on ne l'avait pas revu. Avant de le suivre dans son étonnante odyssée, il n'est pas sans intérêt de chercher à connaître ce que devint sans lui la conspiration dont il semble avoir été, sinon l'instigateur, du moins l'un des principaux conjurés. Et d'abord, y eut-il complot ? Après les scènes que nous venons de raconter, la question peut paraître naïve. Mais dans la suite de cette étude, Rougeville va nous apparaître sous un aspect si singulier, sous un jour si peu favorable parfois. Il va se montrer si léger, si inconséquent, d'une vantardise si puérile, qu'on serait excusable de le regarder comme un simple aventurier se compromettant sans but, par pure gloriole, si on le jugeait seulement d'après les insignifiantes correspondances échangées entre la reine et lui. Autant qu'on peut lire dans cette ténébreuse machination, il nous paraît certain, au contraire, qu'en offrant ses services à la reine, il n'agissait qu'à bon escient. Il se sentait soutenu par des dévouements nombreux et le complot, depuis longtemps préparé, entrait du jour de son entrevue avec la prisonnière dans la période d'exécution. Il y avait alors à Londres une Anglaise, Madame Charlotte Atkin, de Ketteringham Hall, au comté de Norfolk, qui joua dans toute cette aventure un rôle assez mystérieux. Devenue veuve très jeune, elle s'était fixée en France et avait habité l'île jusqu'à la Révolution. En 1792, elle était rentrée en Angleterre et demeurait tantôt à son domaine de Ketteringham Hall, tantôt à Londres, Royal Hotel ou Parkland. Elle entretenait de très actives relations avec plusieurs émigrés, notamment avec le baron d'Auerveck, monsieur de Cormier, monsieur de Moustier, le prince de Trémoy, le comte d'Oliamson, mais surtout avec Jean-Gabriel Pelletier, l'ardent rédacteur des Actes des Apôtres, et avec le comte de Frotté. On croit même qu'il y avait promesse de mariage entre ce dernier et Madame Atkin. C'est dire que cette Anglaise était animée de sentiments profondément royalistes. Du jour où Louis XVI et sa famille furent incarcérés au Temple, Madame Atkins n'eut qu'une pensée, qu'un désir, qu'un but. Enlever par surprise, sinon le roi et la reine, mais tout au moins le dauphin, et l'emmener en Angleterre. Elle avait réussi à établir une correspondance entre Londres et certains amis inconnus restés en France. Les lettres qu'on échangea ne contenaient en apparence que des lieux communs, mais dans les intervalles des lignes, on traçait ce qu'on avait à se dire en se servant d'une encre invisible que faisait apparaître une eau sympathique dont Madame Atkins avait, au préalable, envoyé une provision à tous ses correspondants. Le projet qu'on étudiait ainsi consistait à faire sortir, à l'aide d'un stratagème quelconque, le dauphin de la prison, à le jeter dans une chaise de poste qui l'aurait conduit en moins de 10 heures au bord de la mer, non point par la route ordinaire de Rouen, mais en prenant celle que suivaient pour se rendre à Paris les marchands de poissons, laquelle était toujours bien entretenue et ne traversait aucun bourg important. Pendant les 6 derniers mois de 1792, il y eut en permanence, à Dieppe, un bateau attendant le jeune prince pour le transporter en Angleterre. Mais l'exécution du roi vint décourager les conjurés. Pourtant, Madame Atkins ne se laissa pas abattre. Il restait 4 victimes à sauver. Elle partit pour Paris, parvint à force d'argent à pénétrer au temple, proposa à la reine de changer de costume avec elle et de sortir à sa place. Marie-Antoinette refusa, ne pouvant se décider à abandonner ses enfants. Mais la courageuse Anglaise, avant de rentrer à Londres, profita de son séjour à Paris pour se ménager le moyen de correspondre secrètement avec les prisonniers du temple. La translation de la reine à la conciergerie vint tout déranger. « J'ai vu, écrivait à la fin de juillet Pelletier à Madame Atkins, j'ai vu hier au soir, après vous avoir quitté, les personnes du projet du duc de G. Ils sont encore prêts à exécuter leur plan. Ils sont 3, dont 2 gardes du corps. Ils ne promettent que le roi, Louis XVII, et les 2 prisonnières du temple, Madame Élisabeth et Madame Royale. Ils feront ce qu'il sera possible pour la reine. Mais comme tout est changé, ils ne peuvent répondre de rien. Nous avons fait le calcul de ce qu'il en coûtera et nous avons vu qu'avec 1250 louis seulement, on aurait le moyen d'avoir les 2 enfants. Quant à la reine, on ne peut rien dire encore. On n'a travaillé que le temple et déjà on a dépensé à Paris plus de 1200 livres. Eh bien, si l'on se rappelle que Rougeville, emprisonné au Madelonnettes le 1er juin, en sortit miraculeusement le 14, si l'on songe à ce que cette mise en liberté dut lui coûter, si l'on se souvient qu'il offrit à la reine 350 à 400 louis, n'est-il point possible d'établir entre ces faits et les largesses de Madame Atkins une corrélation frappante? Ils sont 3. Dont 2 gardes du corps, écrivait Pelletier. Le 3e n'était-il pas Rougeville? Eh oui, c'est lui-même, et nous allons en donner la preuve. Les 2 gardes du corps s'occupent du temple. Rougeville, lui, travaille la conciergerie. Il a ses hommes prêts. Il parvient à pénétrer chez la reine. Sa tentative échoue de la façon que nous avons racontée. Il disparaît. Madame Atkins, n'entendant plus parler de rien, s'impatiente, se désespère. Et voici la lettre datée de Londres du 7 octobre qu'on trouve dans ses papiers. Permettez que je vous observe qu'il n'y a peut-être pas autant de motifs de vous alarmer dans ce moment que vous semblez le craindre. Ou ces gens font quelque chose, ou ils sont cachés comme des lâches dans quelque grenier. Or, ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils n'ont point été arrêtés, ni conséquemment guillotinés, puisqu'il n'est question d'eux dans aucun moniteur, et qu'ils font passer de leurs nouvelles. Ces gens, c'est Rougeville, et les complices inconnus sans nul doute de Madame Atkins, qu'il s'était fait fort de réunir. Il avait réussi, d'ailleurs, à en grouper un certain nombre, presque tous du peuple, comme nous l'avons dit. Mais dès qu'il eut lui-même disparu, ses conjurés, sans direction, sans chef, sans lien, se trouvèrent forcément condamnés à l'inaction. Prêts à marcher au premier signal, ils se tenaient chez eux, attendant. Tous ceux d'entre eux dont le nom fut divulgué habitaient, nous l'avons vu, les environs immédiats du palais de justice. C'était habilement conçu. Ce voisinage évitait de mettre en émoi toute la ville et localisait, pour ainsi dire, l'insurrection aux alentours même de la conciergerie. Le poste pouvait être surpris, la reine enlevée, avant que Paris se doutât qu'il se tramait quelque chose. La seconde quinzaine de septembre était près de finir et rien ne transpirait au dehors des événements dont la prison avait été le théâtre. Les conjurés, croyant l'affaire remise, prenaient patience. Mais avec les premiers jours d'octobre, en entendant parler du très prochain procès de la reine, ils s'inquiétèrent. Personne ne donnait le signal attendu. Quelques-uns d'entre eux correspondaient encore avec des commanditaires de la conspiration, puisque nous venons de voir qu'à la date du 7 octobre, ils faisaient passer de leurs nouvelles. Mais c'était pour dire « nous ne faisons rien, nous n'entendons parler de rien ». C'est alors que Madame Atkins et les royalistes de l'ombre s'impatientent et s'alarment. Pourtant, le bruit se répand dans la ville qu'on va mettre Marie-Antoinette en jugement. Il n'y a plus d'espoir à garder. Il faut la sauver par un coup de force ou bien se résoudre à la voir périr. Et tout aussitôt, les conjurés s'émeuvent et reconnaissent plus tard que si le signal attendu ne leur a pas été donné, c'est que celui qui devait les réunir n'est plus là. Ils s'agitent, ils se consultent. Que vont-ils faire? Agiront-ils sans chef? Tenteront-ils, sinon de prendre d'assaut la prison, du moins d'enlever la reine pendant le trajet du palais à l'échafaud? Il devait forcément arriver que le bruit d'un complot aussi complètement désorganisé parvint aux oreilles de la police. Le 12 octobre, un agent provocateur nommé Jules Laroche et un commissaire du comité révolutionnaire de la section de l'unité dénonçaient à la commune l'existence de la conspiration. Deux individus s'étaient, par des imprudences de langage, gravement compromis. C'était une femme Fournier et un jeune perruquier de 19 ans nommé Basset. Celui-ci prétendait disposer de 540 individus. On prit des informations dans le quartier et aussitôt les témoignages accablants abondèrent. On arrêta une vingtaine de personnes dont la plupart furent remises en liberté, faute de preuves. On ne retint que la femme Fournier, Basset, un nommé Guillaume Lemille et sa femme, qui, tous quatre, furent envoyés à l'échafaud. Le petit garçon de la femme Fournier, un gamin de 14 ans, fut condamné à l'exposition publique et à 20 ans de détention. Aucun des conjurés n'avait rien révélé, mais il est bien évident que l'idée d'un tel complot n'avait pas germé dans la tête d'un perruquier de 19 ans et que ce n'était pas avec ses propres ressources qu'il aurait pu le réaliser. Derrière Basset, il faut donc chercher quelqu'un. L'âme de la conspiration était Rougeville, l'homme introuvable sur lequel la main de la police ne pouvait se poser. Malgré ces coups successifs de la fatalité qui durent lui être révélés par son avocat, la reine avait-elle perdu tout espoir? Pour ma part, je ne le crois pas. Souvent, depuis l'affaire de l'œillet, elle avait demandé à Gilbert et à Dufresne si le particulier qui lui avait remis un billet avait été arrêté. Elle comptait certainement encore sur ce dévouement. Et puis, bien qu'on l'eût changé de cachot pour la mettre plus à l'abri d'un enlèvement, une pauvre fille, Mademoiselle Fouché, un prêtre, Monsieur l'abbé Magnien, était parvenu, malgré la surveillance redoublée, à lui porter des consolations. Elle était donc en droit de croire que tous ses amis veillaient. Mercier rapporte que le matin du 16 octobre, déjà parée pour la mort, la pauvre femme, assise sur son lit de sangle, en attendant le bourreau, interrogea les gendarmes qui la gardaient. « Croyez-vous, dit-elle, que le peuple me laisse aller à l'échafaud sans me mettre en pièces ?» Et dans cette question, on devine comme un suprême espoir l'attente d'une bagarre, d'une lutte entre ses fidèles et ses bourreaux, au cours de laquelle elle échappera peut-être. Cette dernière illusion fut déçue, comme les autres. On a dit qu'arrivée devant la sinistre estrade, Marie-Antoinette promena sur la foule un long regard. Espérait-elle encore que celui qui avait veillé sur elle au 20 juin, au 10 août, qui lui avait offert ses services à la conciergerie, que Rougeville, en un mot, allait émerger de cette foule et donner le signal tant attendu? Dès que le couteau fut tombé et le corps inerte jeté dans le panier, la foule se rua vers la guillotine. Sous l'échafaud, on découvrit un homme dont les vêtements, les mains, la cravate même étaient rouges du sang de la fille de Marie-Thérèse s'égouttant à travers les planches. Entre ses lèvres serrées, il tenait un œillet. On l'arrêta. Cette fleur inspirait des soupçons. On crut y voir un signe de ralliement. L'homme était un militaire nommé Mingo. Malgré tous les efforts de la police, malgré toute la bonne volonté des juges, on ne put rien découvrir contre lui de compromettant. Il fut gardé quelques jours en prison, puis on le mit en liberté. Quant à Michoni, après être resté pendant 10 mois à la prison de l'abbaye, il monta enfin sur l'échafaud le 17 juin 1794 comme complice de Cécile Renaud dont il n'avait jamais entendu parler. C'était l'épilogue de l'affaire de l'œillet. Nous permettra-t-on, après l'avoir raconté le plus authentiquement qu'il nous a été possible, de revenir un instant au roman du chevalier de Maison Rouge dont elle forme le principal épisode. Avec un talent de conteur qui n'a décalé que sa profonde insouciance de l'histoire, Dumas en a tracé un récit d'un pittoresque achevé. Moran, c'est Rougeville. Geneviève d'Ixmer, c'est Sophie du Tilleul. Maurice Lindet, c'est Michoni. Et si ces figures y sont dramatisées et anoblies à plaisir, l'exposé de leurs divers sentiments n'est peut-être pas très éloigné de la vérité. Où donc l'auteur des Mousquetaires avait-il puisé ses renseignements? La question peut ne pas être sans intérêt. Dans le procès des Bourbons, paru en 1795, répondra-t-on? Non, car il n'eut pas commis l'erreur de placer au temple un événement qui eut la conciergerie pour théâtre. Et cette erreur dénature tout. Car il était bien autrement difficile de forcer les portes de la conciergerie que celles du temple, où la garde était nombreuse, par conséquent mêlée et se renouvelant tous les jours. Eut-il donc connaissance de la brochure publiée en 1798 par Rougeville? Pas davantage, car dans ce cas, il n'aurait pas osé se débarrasser de son héros en le faisant se suicider sous l'échafaud de la reine au moment même de l'exécution. Quant à se représenter Dumas allant aux archives nationales et compulsant les pièces originales, il ne faut même pas y songer. Non, il ne connut que très incomplètement l'histoire de Rougeville. Il sut que celui-ci vivait caché dans Paris sous un faux nom. Il sut qu'à l'aide d'une femme, il parvint à se glisser dans les bonnes grâces d'un fonctionnaire influent. Il sut qu'il se servit de cette relation pour présenter un œillet à la reine. Où et comment, il ne s'en inquiéta pas. Il sut que le complot échoua et que celui qu'il avait conçu disparut sans qu'on pût retrouver sa trace. À l'aide de ces éléments, il construisit son roman. Eh bien, ces données historiques rudimentaires, il ne put les tenir que d'un des conjurés survivants. Ils étaient, on l'a vu, plus de 500, prêts à marcher, mais, on le comprendra, tenus très vaguement au courant de ce qui se tramait en dehors d'eux. Est-il impossible qu'il ait rencontré, au cours de son existence mouvementée, un vieillard qui lui ait dit « Ah, monsieur Dumas, j'en connais, moi, des histoires ». J'ai été mêlé dans ma jeunesse à une aventure qui ferait un beau roman, et qui lui ait conté la chose en omettant les incidents oubliés ou inconnu. Et un détail infime vient à l'appui de cette hypothèse, un détail qui ne se trouve dans aucun récit, qui n'est mentionné dans aucune pièce officielle. Je veux parler de ce petit chien de la reine, auquel Dumas fait jouer un rôle. Ce chien devait inquiéter les conspirateurs. Il était un obstacle à la réussite de leur projet. Il pouvait, à un moment inopportun, donner l'éveil au geôlier. C'est là une de ces petites préoccupations qui surnagent, on ne sait comment, dans la mémoire. Mais, dira-t-on, le chien a été inventé comme le reste. Personne n'en parle, ni Rosalie la Morlière, ni les interrogatoires, ni les comptes rendus du procès. Soit. Il est pourtant avéré que le carlin de Marie-Antoinette avait suivi sa maîtresse du temple à la conciergerie. Il ne fut pas, d'ailleurs, assommé d'un coup de bâton, comme le raconte Dumas. Le journal de l'internonce Salomon, publié il y a quelques années seulement, nous a fixé sur le sort de ce dernier ami de Marie-Antoinette. L'abbé de Salomon, ayant été sous le directoire, emprisonné à la conciergerie où il couchait dans le lit qui, jadis, avait sorti à la reine, « Je vis, dit-il, comme ma porte s'ouvrait, un carlin entrer dans ma chambre, sauter sur mon lit, en faire le tour et s'en aller. » C'était le carlin de la reine que Richard avait recueilli et dont il prenait le plus grand soin. Il venait de la sorte pour flairer les matelas de sa maîtresse. Je le vis faire ainsi tous les matins, à la même heure, pendant 3 mois entiers, et malgré tous mes efforts, je ne pus jamais l'attraper. Eh bien, si l'on admet que l'un des affidés de Rougeville mit Dumas au courant des grandes lignes du complot, il n'est pas téméraire de supposer que le même témoin de ces événements lui raconta comment le bruit courait en 1793 que Rougeville se dévoit uniquement par amour. Le grand conteur en fit son profit. Cette religieuse et obsédante passion du chevalier de Maison Rouge pour la reine est un de ses plus dramatiques incidents du célèbre roman. Est-elle authentique? On l'a dit. Mais rien dans les documents officiels n'autorise à ajouter foi à cette romanesque supposition. Si Rougeville a aimé la reine, et étant donné son caractère aventureux, il était bien homme à se laisser aller à un pareil sentiment, il ne nous reste aucun indice permettant de donner sa passion comme le mobile de son dévouement. D'ailleurs, qui oserait sonder les causes, quand il est déjà si difficile d'exposer les faits? En pareille matière, le mot des Italiens doit servir de réponse. Qui le sait? Et maintenant, quittons le roman pour rentrer dans l'histoire.